s'agit bien de nous faire un écho de ce qu'ils vivent. Et ce qu'ils vivent, ben, c'est d'abord une vie d'église, c'est d'abord une mission qu'ils ont, c'est d'abord des possibilités d'évangélisation, ce sont également des possibilités d'action sociale. Et vous savez qu'il y a une grande tradition française, de nombreuses écoles au Moyen-Orient qui ont formé les élites des pays du Moyen-Orient, non seulement les chrétiens bien sûr, mais également d'ailleurs les musulmans. Et par conséquent, il y a une grande tradition culturelle de l'influence française, spécialement de l'influence de l'Église de France dans cette région. C'est aussi nous faire l'écho de ce qu'ils vivent au quotidien, au plus proche, d'où l'importance pour nous d'aller fréquemment les rencontrer, de les écouter, de permettre de parler d'eux. Et donc, je pense que ce sont des liens d'amitié, des liens fraternels qui, par-delà l'aide matérielle que nous pouvons apporter, est ce qu'ils attendent le plus de nous.
Défis et attentes des chrétiens d'Orient, quels sont-ils aujourd'hui ?
Alors, je pense qu'il y a d'abord une attente de pouvoir être des citoyens à part entière dans les pays où ils vivent. Et donc, en ce sens-là, nous sommes prêts évidemment à les aider, nous sommes à leur côté, mais c'est une action longue, mais qui doit être persévérante. Et ce n'est pas une action qui est dirigée contre personne. En soutenant les chrétiens qui sont au Moyen-Orient, pour qu'ils puissent vraiment la pleine capacité d'exercer leur citoyenneté, nous sommes conscients d'aider ces pays dans leur intégralité. Prenons par exemple tel ou tel pays au Moyen-Orient où il y a une minorité chrétienne. En nous efforçant d'aider cette minorité chrétienne à vivre pleinement sa citoyenneté, nous aidons le pays tout entier qui a également d'autres minorités. Donc il y a d'abord une pleine citoyenneté, ensuite il y a une perspective évidemment professionnelle. Il faut que les chrétiens en Orient aient des débouchés professionnels qui leur permettent d'envisager sereinement l'avenir. C'est aussi leur permettre d'exercer leur religion de manière libre, de manière pacifique, de manière apaisée, mais en même temps sans honte et sans crainte. Certes, ils n'ont pas honte de leur religion, mais il faut leur permettre de pouvoir l'affirmer sans inquiétude. Et en ce sens-là, nous sommes également à leur côté. Je pense qu'il est important que les catholiques latins connaissent mieux leur tradition spirituelle, leur tradition théologique, leur tradition liturgique, leur vie concrète d'église. Donc il y a un problème pour eux de se faire connaître chez les catholiques latins. Il y a bien sûr aussi tout ce qui peut concerner la formation des plus jeunes. Bref, que ces chrétiens puissent avoir une espérance raisonnable de pouvoir rester dans leur pays sans que ce soit une situation trop complexe et par conséquent les aider à ne pas se sentir obligés de quitter les pays dont ils sont originaires, qui sont des pays qu'ils aiment, auxquels ils sont attachés et donc ils doivent pouvoir rester dans les pays dans lesquels ils sont actuellement.
En juin dernier, Benoît XVI avait officiellement remis l'Instrumentum Laboris lors de son voyage à Chypre. Dans un discours à cette occasion, il avait notamment réitéré son appel en faveur d'une résolution des tensions actuelles, spécialement en Terre Sainte. Que peut-il être fait depuis la France en ce sens ?
Eh bien, comme vous le savez bien, le président Pérez est venu rendre visite au Saint-Père et je trouve que cette démarche est tout à fait symbolique. Dans certains milieux laïcs en France, pour ne pas dire laïcistes, on laisse entendre que les conflits en Terre Sainte seraient le fait des religions. C'est comme souvent une analyse à courte vue, car le problème des tensions, comme tout le monde le sait, n'est pas d'abord un problème religieux, et bien à l'inverse, les religions peuvent prendre leur part pour essayer aux hommes de cette région de se connaître, de se parler et de se comprendre. Et je pense également que les différentes religions dans cette région peuvent aider à garder un sens de l'homme, un respect de l'homme, un respect de la vie. Et je pense par conséquent que la démarche du président Pérez, rendant visite au Saint-Père au moment où s'ouvrent des négociations, est bien de nature à dire l'importance qu'il y a aux yeux des uns et des autres de l'influence des églises, de l'influence des communautés chrétiennes, de l'influence des spiritualités, pour pacifier au mieux cette région.
Qu'attendez-vous de ce synode qui s'ouvrira donc le 10 octobre prochain à Rome ?
Les synodes sont souvent, vous savez, d'abord des expériences spirituelles. Il y a toujours un invité extraordinaire à un synode, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a généralement cette capacité à nous faire prendre du recul par rapport aux questions. Bien sûr, en ouvrant ce synode, nous avons les questions d'avenir des chrétiens au Moyen-Orient. Bien sûr, nous avons la question des relations entre les diverses églises au Moyen-Orient. Bien sûr, nous avons des questions qui relèvent de l'œcuménisme et du dialogue interreligieux. Mais je pense que le synode sera d'abord une expérience spirituelle. Donc de se remettre devant le fond de notre foi, de notre espérance, de notre charité. Et l'Esprit-Saint souvent bouleverse les questions. Vous voyez, c'est pas simplement d'apporter des réponses précises à des questions qui sont déjà là, c'est aussi prendre du recul vis-à-vis de nos propres questions. Et en ce sens-là, un synode est toujours un peu une surprise. Alors moi, je serai ouvert aux surprises que l'Esprit-Saint va susciter à travers ses membres. Monseigneur Philippe Brizard, qui était jusqu'à présent directeur général de l'Œuvre d'Orient et qui a une expérience tout à fait exceptionnelle de ces églises du Moyen-Orient, sera invité spécial au synode. Nous nous en réjouissons et nous espérons que chacun se mettra devant les véritables enjeux de la foi. Donc que ce soit d'abord une expérience spirituelle. Voilà notre attente principale. C'est pas simplement un problème d'organisation ou un problème de diplomatie, c'est d'abord une expérience spirituelle.
Une dernière question, Père Gollnisch. Quel est le principal message que vous souhaitez faire passer lors de la conférence de presse de ce mercredi ?
Outre ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'on se remette bien devant un événement spirituel et pas simplement comme une sorte, je ne sais pas moi, d'assemblée régionale de l'ONU, hein, c'est d'abord une expérience spirituelle, je voudrais aussi que tous comprennent que lorsque nous aidons les chrétiens d'Orient, nous n'agissons pas contre quelqu'un, contre personne. Nous ne sommes pas en train de soutenir les chrétiens d'Orient contre d'autres religions. En aidant les chrétiens d'Orient, nous voulons être attentifs à aider chacun. Je crois que c'est d'ailleurs l'intérêt bien compris de nos frères d'Orient. Et je voudrais également que les chrétiens latins se préoccupent davantage de ces églises sœurs, de ces églises qui ont une grande richesse de tradition à tout point de vue, spirituel, théologique et liturgique notamment, et que par conséquent nous soyons beaucoup plus familiarisés avec la vie de ces églises et que nous ayons à cœur de les rencontrer, vous voyez, au plus proche. Je crois que mon rêve serait que les paroisses de France se rapprochent de paroisses du Moyen-Orient, pour qu'on se connaisse, pour qu'on se rencontre, pour qu'on se parle. Je pense qu'il faut que nous regardions, que nous apprenions à regarder ces églises d'Orient comme des églises d'avenir, parce que parfois, en raison de la richesse historique, en raison parfois des difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie quotidienne et donc d'un certain exode qu'il peut y avoir ici ou là, nous risquons de nous imaginer que ces églises sont seulement riches de leur passé. Elles ne sont pas seulement riches de leur passé, elles sont tournées vers l'avenir, ce sont des églises pleines d'espérance et nous sommes très confiants dans ce qu'elles pourront vivre comme mission dans les années qui viennent.